Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut.
Salut à toutes et à tous. Les supernovas de type 1A jouent un rôle fondamental en tant que chandelle standard pour étudier l'accélération apparente de l'expansion de l'univers et puis pour mesurer son taux actuel, la constante H0. Le principe de chandelle standard repose en grande partie sur le fait que les supernovas de type 1A, l'explosion thermonucléaire d'une étoile naine blanche, survient toujours lorsque la naine blanche atteint la masse critique de Chandrasekhar, qui vaut 1,4 masse solaire, par apport de masse externe. Mais une nouvelle observation d'un jeune résidu de supernova indique que l'explosion a eu lieu bien en dessous de 1,4 masse solaire. Et si les supernovas de type 1A n'étaient pas les chandelles standards que l'on croit? L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Alors malgré leur importance capitale, la compréhension complète des systèmes progéniteurs des supernovas 1A et de leur mécanisme de déclenchement reste un problème fondamental encore aujourd'hui. Dans une naine blanche composée de carbone et d'oxygène, et approchant de la masse de Chandrasekhar, l'augmentation de la densité centrale déclenche inévitablement une combustion nucléaire. La masse d'explosion presque constante que fournit le modèle d'explosion à la masse de Chandrasekhar était une explication de l'homogénéité attribuée aux supernovas de type 1A. Mais des données d'observation de plus en plus nombreuses remettent en question la notion d'homogénéité des supernovas de type 1A, et une masse fixe semble même problématique pour reproduire la relation largeur spectrale-luminosité qui est vitale pour calibrer les supernovas de type 1A en tant qu'indicateur de distance cosmologique, les fameuses chandelles standards. En fait, il apparaît que la relation largeur-luminosité s'explique plus naturellement par une masse variable des naines blanches et qui serait inférieure à la limite de Chandrasekhar. En outre, la capacité de faire croître les naines blanches jusqu'à la masse de Chandrasekhar, limite les paramètres du système binaire progéniteur à une gamme étroite, de sorte que le taux de supernova de type 1A qui est observé aujourd'hui il est difficile à concilier avec le nombre attendu de systèmes compatibles avec le scénario d'explosion à la masse de Chandrasekhar. Il faut donc envisager d'autres scénarios impliquant des explosions d'étoiles naines blanches carbone-oxygène bien en deçà de la limite de Chandrasekhar. La collision frontale de deux naines blanches peut sembler prometteuse pour produire des explosions de supernova de masse inférieure à la limite. Mais ce scénario n'est pas privilégié par les astrophysiciens, car les taux d'occurrence prévus sont trop faibles. Le scénario actuellement le plus prometteur pour l'explosion d'une naine blanche de masse inférieure à 1,4 masse solaire, c'est celui dit de la double détonation. Dans ce scénario, une naine blanche carbone-oxygène recueille de la masse riche en hélium provenant d'une compagne, d'une étoile à hélium ou bien d'une autre naine blanche riche en hélium, ou bien encore de la fine couche d'hélium préexistante au sommet d'une naine blanche carbone-oxygène lors d'événements de fusion. Dans cette couche d'hélium, une détonation thermonucléaire est déclenchée, soit par un chauffage par compression lorsque la couche d'hélium devient suffisamment massive, ou soit par des instabilités dynamiques. Cette première détonation se propage ensuite à travers la fine couche d'hélium et provoque une onde de choc dans le noyau carbone-oxygène, où elle se concentre sphériquement dans un petit volume. La compression et l'échauffement du cœur de carbone-oxygène déclenchent une seconde détonation dans le cœur et font exploser complètement la naine blanche, de masse inférieure donc à la limite de Chandrasekhar. Alors bien que de nombreuses simulations indiquent que le mécanisme de double détonation est possible, elles n'ont pas encore permis de déterminer les échelles spatiales sur lesquelles la détonation primaire de l'hélium doit apparaître. Et même si elles sont incapables de déterminer les détails de l'allumage des détonations nécessaires, ces simulations fournissent tout de même des informations essentielles sur la structure, ainsi que la morphologie et les spectres précoces d'une supernova de type 1A à double détonation. En termes de nucléosynthèse dans la supernova par double détonation, les explosions dans le noyau de carbone-oxygène et dans la couche externe riche en hélium donnent des produits qualitativement différents. En effet, le type de combustible, donc carbone-oxygène ou bien hélium, et les densités, on a une densité plus élevée dans le cœur et plus faible dans la couche externe, eh bien, diffèrent considérablement, d'environ deux ordres de grandeur pour la densité. Dans le cœur, la densité du combustible est le paramètre clé qui détermine l'issue de la combustion nucléaire explosive. Pour les densités supérieures à 7 10 puissance 6 grammes par centimètre cube, 7 millions de grammes par centimètre cube, donc une densité de 7 millions, oui, la combustion est presque complète et les éléments du groupe du fer, en particulier le noyau radioactif du nickel 56, dominent les rendements de la nucléosynthèse. Aux densités intermédiaires, plus éloignées du centre du noyau, l'échelle de temps de la fusion nucléaire devient de plus en plus longue et l'expansion rapide de la supernova conduit à un gel des réactions nucléaires avant que la combustion en éléments du groupe du fer ne soit achevée. En conséquence, la synthèse d'éléments de masse intermédiaire domine dans ces régions. Les éléments intermédiaires les plus lourds, comme le calcium, étant relativement plus abondants à l'intérieur, et les éléments les plus légers, comme le silicium ou le soufre, devenant relativement plus abondants à mesure que la densité du combustible diminue vers l'extérieur. Finalement, la densité devient trop faible, de l'ordre de 3 millions de grammes par centimètre cube, pour que l'oxygène puisse brûler et seul le carbone continue à brûler pour donner des éléments légers comme l'oxygène, le néon et le magnésium. Une structure en couches se forme dans le résidu. À des densités encore plus faibles, la composition du combustible change rapidement, là où commence la couche d'hélium. Il faut rappeler qu'en raison de sa barrière de Coulomb plus faible, l'hélium 4 est plus réactif et que des détonations dans l'hélium sont possibles jusqu'à des densités beaucoup plus faibles. Comme dans le cas du noyau carbone-oxygène, les détonations à enveloppe d'hélium produisent une progression en couche radiale de la masse atomique des produits de combustion. Les éléments les plus lourds, comme le chrome, le fer ou le nickel, étant synthétisés de préférence dans les parties internes et plus denses de l'enveloppe d'hélium. Les éléments plus légers, comme l'hélium non brûlé, le carbone ou l'oxygène, se trouvent dans les parties externes et moins denses de l'enveloppe d'hélium, et les éléments de masse intermédiaire, comme le silicium ou le soufre, se trouvent entre les deux. Alors, compte tenu de ces modélisations des signatures nucléosynthétiques du noyau de carbone-oxygène et de la coquille d'hélium, les modèles de double détonation prévoient notamment que le calcium soit concentré dans deux couches distinctes. Une couche interne provenant de la région du noyau, correspondant à la combustion incomplète de la détonation de carbone-oxygène à des densités de combustible de l'ordre de quelques millions de grammes par centimètre cube, et une couche externe correspondant à la détonation de l'hélium à des densités de combustible de l'ordre de quelques millions de grammes par centimètre cube. Cette couche externe doit avoir une vitesse plus élevée dans l'éjecta de l'explosion en expansion, correspondant à la base de la coquille d'hélium. Les modèles d'explosion de Collins et collaborateurs prédisent une telle morphologie de double coquille de calcium avec des éléments de masse intermédiaire plus légers que le calcium, tels que le soufre ou le silicium, qui seraient situés entre les deux coquilles. Alors que les simulations numériques ne peuvent pas à elles seules confirmer que le mécanisme de double détonation existe bien dans la nature, une observation confirmée de la structure à deux coquilles fournirait une preuve directe de son fonctionnement dans les supernovas de type 1A. À ce jour, la supernova SN2018BYG est largement reconnue comme l'un des cas les plus convaincants liant le mécanisme de double détonation à une explosion de supernova de type 1A et est mieux expliqué par un modèle qui incorpore une couche d'hélium plutôt massive. En raison de la petite taille angulaire aux premiers instants de la supernova, la structure unique de l'empreinte du calcium, c'est-à-dire la morphologie à double coquille, reste spatialement non résolue aux époques proches du pic de luminosité, c'est-à-dire entre 15 et 20 jours après l'explosion. C'est pourquoi toute déduction d'une structure d'éjecta à double coquille, à partir d'observations à ces phases, dépend fortement de l'interprétation des caractéristiques spectrales. Mais heureusement, ces caractéristiques changent avec le temps, car la supernova se dilate continuellement. Priam Das de l'Université de New South Wales en Australie et ses collaborateurs se sont eux intéressés à un jeune résidu de supernova de type 1A qui est situé dans le Grand Nuage de Magellan et qui est nommé SNR0509-67. Eh bien, ils ont réussi l'exploit de prendre un instantané spatialement résolu d'une double coquille de calcium présente dans le résidu de supernova, et ça grâce à l'instrument MUSE, le Multi-Unit Spectroscopic Explorer, qui est monté sur le Very Large Telescope de l'ESO. Il leur aura fallu une pause totale de 29h15 sur 39 nuits différentes réparties entre novembre 2019 et février 2021. La morphologie à double coquille qu'ils ont observée est constituée de calcium hautement ionisé, ce qu'on appelle le calcium 15, donc 14 électrons en moins pour cet atome. Et ils ont également isolé une coquille unique de soufre ionisé, le soufre 12, et qui est observé dans l'éjecta à choc inversé. L'analyse des chercheurs révèle que la coquille externe de calcium provient de la détonation de l'hélium à la base de l'enveloppe externe, tandis que la coquille interne est associée à la détonation du noyau carbone-oxygène. Cette distribution morphologique d'éléments intermédiaires correspond qualitativement à la signature qui est prédite de la double détonation d'une naine blanche de masse inférieure à la limite de Chandrasekhar par les simulations d'explosion hydrodynamique. Comme les observations de Das et ses collaborateurs révèlent deux pics distincts et spatialement séparés dans la luminosité de surface du calcium 15, cela fournit des preuves substantielles que des explosions de naines blanches de masse inférieure à la limite de Chandrasekhar par le mécanisme de double détonation peuvent bel et bien se produire dans la nature. Cette preuve implique d'ailleurs que certaines supernovas 1A, celles qu'on appelle de type 1991T, s'explique de manière plausible par des doubles détonations de naines blanches de masse inférieure à celle de Chandrasekhar. Les chercheurs précisent que le modèle d'explosion à double détonation, de masse la plus élevée qui avait été prédite par Gronov et collaborateurs en 2021, a produit 0,84 masse solaire de nickel-56, ce qui se situe dans la plage qui est prédite pour les supernovas 1A de type 1991T. Par ailleurs, des observations récentes de deux autres supernovas, SN2022 JOJ et SN2020 EYJ, suggère la possibilité d'un événement de type 1991T à partir de la double détonation d'une naine blanche carbone-oxygène. Et puis d'autres analyses d'observation de SN2020EYJ qui montrent des preuves de matière circonstellaire qui est riche en hélium ont également pointé, c'était l'année dernière, hein, vers le mécanisme de double détonation. Malgré les capacités de simulation tridimensionnelle qui sont limitées, et le fait qu'à ce jour, aucun modèle d'explosion ne puisse expliquer de manière adéquate les supernovas 1A de type 1991T, les récentes simulations de transferts radiatifs qui intègrent la physique de l'équilibre thermodynamique non local sont plus prometteuses. Il a notamment été rapporté récemment que les éléments lourds dans des états d'ionisation plus élevés devaient réduire les effets d'absorption, ce qui permettrait à une plus large gamme de masses de couches d'hélium de mieux concorder avec les spectres des supernovas 1A qui sont observés. Et puis, de récentes simulations multidimensionnelles de double détonation montrent aussi que dans le scénario de la fusion de naines blanches, en plus de la naine blanche primaire subissant une double détonation, eh bien la naine blanche compagne peut elle aussi également subir une double détonation lorsqu'elle est impactée par les éjectats de la naine blanche primaire en explosion. Ça résulte donc en une quadruple détonation dans le système. Selon les chercheurs, une telle double-double détonation pourrait également conduire à la structure à double coquille qui est observée sur le calcium. Alors bien qu'il ne soit actuellement pas en mesure de différencier de manière concluante les différentes variantes de double détonation, Das et ses collaborateurs, avec leur découverte, peuvent dire avec assurance qu'une certaine forme de double détonation conduit bien à des supernovas de type 1A, avec toutes les conséquences que cela pourra avoir sur l'idée de les utiliser comme des chandelles standards. L'article de Priam Das et ses collaborateurs s'intitule Le calcium dans un résidu de supernova comme une empreinte d'une explosion de masse inférieure à la limite de Chandrasekhar. Il est paru dans Nature Astronomy le 2 juillet 2025. C'était avant-hier. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre, hein, et surveillez toujours les supernovas. On ne sait jamais. Allez, salut !